Bonsoir. Nous allons parler cette fois-ci d'un sujet qui est un petit peu atypique, puisque nous allons faire une expérience de pensée pour une ébauche de xénoarchéologie. Alors avec moi, on va essayer de le faire dans l'ordre, Emma Newman, qui est donc lectrice de livres audio aussi, qui anime un podcast, T and Jeopardy, et qui a reçu au mois de septembre dernier le prix Hugo du meilleur fancast. Bravo. Et qui donc a un registre assez varié dans son écriture, puisqu'elle a écrit des nouvelles noires, une pentalogie de fantasy et un premier roman de science-fiction, Planète folle, qui a été remarqué et qui sera bientôt suivi d'une suite dans un registre un petit peu policier. Et puis Gilles Moutier, qui a un très grand palmarès, qui est actuellement chef de programme à la direction de l'énergie nucléaire du CEA, qui a été enseignant, chercheur en chimie physique à Versailles, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, depuis 2001 au CEA et en département de physique chimie de Saclay, qui s'intéresse plutôt aux instruments et aux méthodes d'analyse dans les milieux hostiles. Ça tombe bien, nous irons tout de suite dans un milieu hostile. En s'occupant donc de lasers, de microsystèmes, d'analyse à distance et sans contact. Il a aussi participé à la conception de l'analyseur LIPS, de l'outil ChemCAN, qui a été sur Curiosity, qui est sur Mars, et je crois que l'appareil a été présenté en son temps aux Utopiales en 2012, si je ne me trompe. Donc, Becky Chambers, qui a une formation d'art du spectacle et qui a une famille qui est impliquée dans le spatial, avec une mère astrobiologiste. Donc nous sommes tout à fait dans le sujet. Qui a écrit donc pour l'instant deux romans, L'espace d'un an et Libration, qui se déroule dans le même univers. Les deux titres avaient été sélectionnés pour le Hugo et pour le Clark. Voilà. Et puis Patrice Lajoie, formation en archéologie, en paléontologie, qui est également éditeur scientifique, un historien des religions qui est plutôt spécialisé en mythologie celtique et slave, et qui s'intéresse aussi à la science-fiction soviétique et russe. Le dernier livre paru, c'est Étoile rouge, on peut le voir, il est peut-être là, qui est donc une anthologie faite avec Victoria. C'est paru chez Piranha. Chez Rivière Blanche et ailleurs, il y a pas mal de bibliographies ou de présentations de textes de science-fiction soviétique. Et puis donc, Lucille Beck, physico-chimiste et archéomètre, qui a un doctorat en physique des matériaux, spécialisé dans l'analyse et la datation des matériaux du patrimoine culturel, qui a donc travaillé au musée de restauration du Louvre, évidemment. Ça permet donc de savoir s'il y a des faux ou de dater peut-être certaines choses. Et qui dirige aussi le laboratoire national de datation par la méthode du carbone 14 au CEA de Saclay. Peut-être qu'on en aura aussi besoin de savoir comment marche le carbone 14. Vous avez travaillé notamment sur la grotte de Rouffignac aussi.
Oui, exactement.
Voilà. Donc, l'expérience de pensée actuelle, nous arrivons sur une planète XVIZ, XWYZ, c'est tout à fait de la science-fiction ça, avec des lettres pareilles, qui est explorée par une mission humaine. On y relève des traces de vie organisée, assez ancienne. Il n'y a plus de vie peut-être sur la planète, ou alors une vie qui n'est pas apparemment organisée. Et la question est de savoir, tous selon vos disciplines différentes, ou votre imagination, vos connaissances, quelles techniques et quelles procédures il va falloir employer pour mettre au jour tous ces artefacts d'une vie étrangère à l'humain, éventuellement quelles précautions il faudra prendre, et puis comment on va pouvoir dater ces vestiges et comprendre ce que c'est et à quoi ça servait. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, vous allez peut-être rebondir les uns sur les autres. Est-ce que l'on peut déjà... Emma commence tout de suite.
I want to go first because I feel I am so horribly underqualified to be on this panel with so many great scientific minds. But I would also like to wave a flag for infection control. Because this is something that is very close to my heart and upsets me the most when, in particular movies, and I understand the reasons why Hollywood does not always obey everything that you should do to control infections, but if I was going to send anybody down to the planet, and if I was going to go down to the planet, I would want to have all of those in place before we even thought about what we're going to do with what we find down there. Just thinking about how, in our own history, there have been so many disastrous occasions of a person or people from one population going to another continent, and the exchange of disease and all of those problems is something that I worry a great deal about and shout at the TV screen at a lot. So that's what I would like first.
In French. Vous parlez de virus et d'infection, et donc vous parlez de la présence d'éléments déjà extrêmement complexes, extrêmement formés, extrêmement avancés.
Yes, all of it. Contaminants.
Mais oui, en fait, la présence, elle peut aussi se déterminer, la présence d'une forme de vie ou du début d'une forme de vie, elle peut aussi se déterminer sur des éléments qui sont bien en amont de ces formes complexes-là. Et donc, de mettre en évidence, par exemple, que la vie a commencé à se former. Alors, qu'est-ce que la vie ? Elle a commencé à se former, mais elle n'est pas forcément allée jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'organisation de molécules complexes qui ensuite vont donner des virus et des bactéries. Donc, il y a plusieurs échelles, à la fois de temps et de complexité, qui peuvent caractériser le fait qu'une vie aurait pu être possible, une vie a été possible. Et donc ça met en œuvre des choses différentes. Par exemple, donc sur la planète Mars, que je connais bien, je connais bien, je n'y suis jamais allé, hein. C'est un peu long. Un peu long et un peu loin. Mais la question qui se posait était, y a-t-il de la vie sur Mars ? Aurait-il pu y avoir de la... La réponse était rapidement non, mais aurait-il pu y avoir de la vie sur Mars ? La vie a-t-elle commencé à se créer ? Et par la mise en évidence d'éléments chimiques, de molécules qui ne sont pas allées à des degrés de complexité tels que des virus ou des bactéries, on a pu mettre en évidence le fait que le processus avait commencé. Et il s'est arrêté. Mais il avait commencé. Donc ce sont des échelles de temps et de complexité différentes.
So I have a clarifying question about our planet. It's very important. So are we talking about there's signs of life as in microorganisms or more complex life? Are we talking evidence of a civilization? Are we seeing actual ruins there, or is it just life, or both?
C'est à vous d'imaginer les choses. C'est-à-dire, il y a une vie organisée, laquelle elle est. Comment vous allez vous y prendre ? Je suppose que peut-être ça se voit déjà depuis l'espace, même si peut-être il n'y a plus rien. Oui ? Pardon.
Je voudrais juste commencer d'abord par une petite remarque. D'une manière générale, en science-fiction, on a assez maltraité l'archéologie. Quand je vois par exemple le capitaine Picard dans Star Trek qui s'arrête sur une planète, qui tombe sur la bonne ville, qui tombe sur le bon bâtiment, qui tombe sur la relique, qui l'emmène comme ça, je me dis mais quelle régression par rapport à ce qu'on fait de nos jours. Et donc face à ce type d'environnement, une planète avec des traces de civilisation qu'on pourrait interpréter à des traces de civilisation, j'aurais tendance à dire que si les lois de la nature sont les mêmes que chez nous, ben on appliquera exactement les mêmes procédés. Mais évidemment, ça ne tient pas dans le temps d'un épisode de Star Trek. Ce sont des années d'études avec des quantités de spécialistes différents, des biologistes, des physiciens, Et puis, évidemment, s'agissant de culture extérieure, des philosophes, des philologues, c'est quelque chose qui, de fait, sera difficile à mettre en œuvre dans un film ou dans un épisode de série. Dans un roman, ce sera peut-être plus facile, mais ça risque d'être fastidieux à lire.
Oui, et ce qui est important, c'est en archéologie en général, et je pense encore plus en arrivant sur une planète inconnue, c'est de ne pas perturber le système de cette civilisation ancienne. C'est-à-dire que l'intervention de l'archéologue ou des personnes qui iront sur cette planète doivent collecter le plus d'informations possible en ne perturbant pas le système, un, pour ne pas polluer le système, et deux, éventuellement, pour ne pas attraper des virus ou les emporter chez eux. Et en archéologie, on commence un peu comme ça sur le terrain, c'est-à-dire qu'avant de creuser, on observe avec les yeux, mais aussi avec tout un tas d'appareils de physique qui vont des ondes électriques, des ondes électromagnétiques, des infrarouges qui vont sonder la température du sol pour justement, de façon non destructive et sans perturber le système, collecter donc souvent les emplacements de murs, enfin, et éventuellement de la vie. Mais vraiment avec le premier principe de le faire de l'espace, comme vous le disiez, en se rapprochant un peu, puis à quelques mètres, sans toucher, au début. Et après, se décide la stratégie de fouille en fonction de ces premières observations.
That was going to be my comment is that, sorry, I have French in my ears as I'm trying to speak English. I think we actually have an amazing advantage in going to our planet, in that we can start from the top down. I think I know that satellites have been invaluable in archaeology in giving us the ability to look at the context from above. Mm-hmm. You know, whereas here we made a pretty big mess of archaeology for a long time. Of we see a very shiny thing and sort of ignore the context around it and destroy things or ignore them. And so we have an awesome opportunity here to start above. And get the whole, I would say before we send anybody down, establish satellites, establish orbiters, take some really, really good pictures, spend a long time studying it and making sure that we have a great idea of what the whole site looks like before we ever start talking about heading down there.
C'est vrai que si on fait de l'archéologie, c'est-à-dire si on s'intéresse, alors là en plus, donc on, dans le cas présent, on s'intéresse à une civilisation disparue sur une planète qu'on est en train d'explorer, en fait, on a le temps. Ça tombe bien, on est sur des journées du temps. Mais on a le temps d'explorer, on a le temps d'analyser, et donc on a le temps de faire ce que vous dites ou ce que Lucille disait, c'est-à-dire que commençons d'abord par regarder de loin, sans perturber les choses, puis donc de l'espace, de l'atmosphère, puis petit à petit descendons. Une fois qu'on est descendu, utilisons un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Donc là, peut-être que la science rejoint la fiction, je ne sais pas. Mais en tout cas, il existe un certain nombre d'outils qui permettent de faire des mesures à distance, sans contact, donc sans perturber les objets qu'on veut regarder. Et c'est seulement une fois qu'on a obtenu et collecté l'ensemble de ces informations-là, et ça prendra le temps que ça prendra, ma foi, c'est pas bien grave, qu'on pourra décider d'aller faire un prélèvement, d'aller gratouiller à l'endroit qui paraît le plus intéressant. Mais on a le temps. Le
oui,
temps joue avec nous.
Pas pressé, oui.
There's a television program in the UK called Time Team, which always makes me laugh because they only have 3 days to find out what this place was or did, and it's all very dramatic and very silly, and I don't know why they only have 3 days. Like, is everyone going to die at the end of this 3-day period, or can they only hire the equipment for 3 days? I don't know, but it's obviously to make it seem more dramatic and exciting. But one of the things that I was thinking about as you were talking about this with the time and seeing it from a long distance is that over my lifetime, there have been so many discussions about Stonehenge and how people have, when I was younger, people were only, it may just be the reporting, of course, but people were only talking about Stonehenge itself. But now it seems, as I've gone on in my life, that people have been talking more and more about the surrounding areas and the other locations and the other stones and entire shapes within the landscape revealing ideas or revealing this, the story of, you know, ancient processions and all kinds of theories. So I think this kind of pulled back beginning, where we may not necessarily understand everything to start with, that everything is treated with equal importance, because where I get excited about these things is where we start to interpret. When we're looking at something on a different planet, we're not going to have the same reference points, potentially not even the same reference points of two arms, two hands, two legs. The people that created that civilization, how do we even begin to understand what all of those things were for if we don't know what they look like? So let's hope we find pictures inside of what they look like.
C'est ce que l'on attend comme réponse. Par quoi commenceriez-vous, Gilles? À quoi sert, alors, par exemple, la LIBS qui est sur Curiosity? Quel est son travail?
Mais la question que soulevait aussi Emma, elle est de dire, est-ce que la forme de vie que l'on est en train d'essayer de découvrir, de comprendre, est-ce qu'elle est nécessairement globalement comme la nôtre, c'est-à-dire basée sur du carbone, de l'oxygène, de l'azote, et que le système énergétique qui fait fonctionner ça, c'est la consommation de l'oxygène, ou est-ce qu'il faut imaginer quelque chose de totalement différent? Alors, des exemples, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais des exemples sur Terre montre que des formes de vie, alors qui sont malgré tout basées sur du carbone, de l'oxygène, etc., malgré tout ont des systèmes de respiration profondément différents. Je pense à ces petites bestioles qui vivent au fin fond des volcans ou qui sont complètement anaérobies et qui sont pourtant l'équivalent de poissons. Donc ça veut dire que probablement, on peut imaginer des choses profondément différentes de ce que... Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer, conceptualiser, mais en tout cas se dire que probablement il existe des formes extrêmement différentes. Donc après, c'est de revenir peut-être à la base de la base, qui sont les atomes qui vont constituer ce que je ne sais pas nommer, qui sont cette vie-là. Et donc pour ça, il existe effectivement des outils d'analyse qui sont ce qu'on appelle les outils de type élémentaire, et donc qui vont aller caractériser la présence de carbone, d'oxygène, d'azote, de fer, de cuivre, de nickel, de zinc, et éventuellement remonter à des architectures un tout petit peu plus compliquées, mais pas forcément beaucoup plus. C'est-à-dire un atome de ceci avec un atome de cela et un atome d'une troisième chose, mais pas forcément plus. Petit à petit, pour prendre, donc petit à petit, je me répète, du recul sur la manière dont cette matière que l'on ne sait pas décrire aujourd'hui, elle se constitue. Et faire presque le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui était de dire on part de très loin dans un premier temps, puis on focus. Là, à la limite, ça serait au contraire de partir du tout petit, pour petit à petit remonter dans l'échelle de la complexité, pour ne pas se limiter par des a priori anthropomorphiques. Voilà, je ne sais pas ce que...
Il faut que je revienne un petit peu en arrière sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai été un peu injuste envers les auteurs de science-fiction, parce qu'il s'en est quand même trouvé un, en 1957, qui a imaginé une forme d'archéologie future. C'est le russe Ivan Efremov dans La nébuleuse d'Andromède qui consacre dans ce roman utopique tout un chapitre sur la visite d'un chantier de fouilles. Alors ça ne se passe pas sur un autre monde, mais ce qu'il décrit pourrait très bien s'employer sur une autre planète. En gros, le chantier en fait n'est strictement pas visible extérieurement, si ce n'est qu'il y a des piquets plantés pour faire un carroyage. Et à partir de là, il imagine un appareil qui photographie le sol de l'intérieur et permet de voir, comme avec des rayons X quelque part, tout ce qu'il y a dans le sol. On n'a plus besoin de creuser. Et finalement, on ne creuse que s'il y a quelque chose, un objet vraiment extraordinaire que l'on retrouve. Alors, c'est peut-être, à ma connaissance, dans la science-fiction, en tout cas ancienne, le seul à avoir mené cette réflexion-là sur l'archéologie, bon, de notre monde, mais un monde futur, après tout. Mais il y a une bonne raison à ça, en même temps. C'est que lui-même était géologue, paléontologue, et qu'il est l'inventeur d'un concept qui était totalement nouveau à l'époque, dans les années 30-40, qui est la taphonomie. Alors, la taphonomie, en paléontologie, c'est quelque chose qui était original à l'époque. Imaginez qu'avant les années 30, quand on trouve un fossile, bon, on le prélève, et puis c'est tout. Et on l'étudie en laboratoire, et on le met dans un musée. La taphonomie, c'est l'étude du contexte du fossile. Autrement dit, avant de prélever le fossile en question, on regarde ce qu'il y a autour et on regarde dans quelles conditions il s'est retrouvé enterré. Ce qui peut nous permettre de déterminer de quoi l'animal ou l'être est mort, et puis aussi ce qui s'est passé après sa mort. Comment il s'est retrouvé enfoui, s'il a été enfoui, ou s'il a été exposé pendant un certain temps à l'air libre, etc. Alors c'est ça que je trouve assez finalement remarquable, c'est qu'on a un paléontologue qui s'est piqué de science-fiction et qui, dans un essai a priori unique, a essayé d'inventer des méthodes archéologiques du futur en 1957.
Et qui existent maintenant.
Et qui existent maintenant.
C'est ce que je me disais en entendant ça. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on utilise en ce moment ces
les méthodes de résistivité électromagnétique du sol, oui.
Et pour regarder à l'intérieur des pyramides ou pour regarder légèrement en profondeur dans le sol.
On utilise aussi des radars, les lidars, bon, qui ne vont pas en profondeur, mais voilà. On a l'élaboration d'un concept qui n'existait pas du tout en archéologie, je crois même pas non plus chez les physiciens, parce qu'on n'y pensait pas à l'époque.
Des années 60, c'est des...
Est-ce que la fiction, du coup, a porté la science ?
Bonne question.
Bonne question, oui.
L'histoire de la... ça s'appelle la prospection, hein, prospection électromagnétique. Ça a été développé par des physiciens au départ. Hein. C'est vrai, c'est plutôt des physiciens qui se sont intéressés à l'archéologie et qui ont bidouillé des instruments dans leur laboratoire et qu'ils ont mis au service de l'archéologie. Pour en revenir à la discussion qu'on a eue dès le départ, là, c'est vrai que la stratégie qui sera à mettre en place est vraiment différente selon... qu'on recherche des traces de vie, partie organique, comme il était mentionné, ou enfin, de vie, de la biologie, je veux dire, ou des traces de vie dont il reste des témoins d'une civilisation avec des constructions, évidemment, qui font référence à ce que l'on connaît. Mais on peut imaginer que sur une planète lointaine, à partir du moment où on retrouve par des systèmes de prospection, donc soit des photos, soit des rayonnements électromagnétiques, des structures organisées, géométriques par exemple, on peut émettre l'hypothèse que ce n'est pas naturel et donc que c'est dû à une civilisation qui existe ou qui n'existe plus. Voilà, et en fonction de ce qu'on va rechercher, c'est vraiment deux approches différentes. Et l'approche microscopique, elle est aussi valable pour la biologie, mais pour les structures plus importantes, ne serait-ce que savoir si ce sont des métaux, si les civilisations ont utilisé des métaux, s'ils ont transformé les matières premières. Et là, il faut aussi faire des méthodes d'analyse qu'on peut envoyer par des sondes et qui peuvent envoyer les résultats à distance. Je voulais finir, pardon, excuse-moi, sur le tout à l'heure tu disais qu'on a le temps. Je ne sais pas si on a vraiment toujours le temps, parce que si on envoie une expédition, ça a un coût, ça a forcément un temps de vie des gens, des scientifiques qui vont être envoyés. Donc parfois, il faut aussi aller vite. Et il y a l'exemple en 3 jours, là, c'est rigolo, mais ce qu'on appelle les fouilles de sauvetage... Quand il y a une autoroute qui doit être construite ou une voie ferrée, là, on n'a pas le temps. Il faut vraiment aller très vite. Donc, il faut penser à tout ça. La vie, forme de vie, forme de civilisation, le temps à y consacrer. Et encore une fois, avec pour moi les toujours avoir à l'esprit de ne pas perturber le système qu'on va découvrir pour pas y apporter nos propres traces et pour avoir des analyses fiables.
So, on the subject of how much time we have in order to examine the site, that's the question of, first of all, are we sending people or robots? And we're going to assume here we're sending people. And are they coming back is the big question. Are you going to take your finds and bring them back home so where we can study them here? Are you just trying to dig them up, you know, and catalog the context and whatnot and then do your study back on Earth? Or are you just setting up shop there and studying it there? And the thing is, you would have much more time there. However, you're not coming home, and that's the question that's being posed right now with Mars exploration: is this a one-way trip or not? And I think that would be a big question that our mission would have to answer: are we planning on leaving these scientists here? Is this their life's work now? And personally, I think it would make more sense to stay there, even though some people with families might disagree. But I think the risk of taking things elsewhere, so much could go wrong on the trip home, and then you've lost all this data. I think keeping it there, especially so that you can preserve the context and so that you can keep studying the artifacts or the fossils or what have you within the site itself, I think you'd learn more that way.
But then you're talking about colonization.
Well,
potentially, or well. The edges of it. That if you establish something there, that I wonder if there are other issues and ethical issues.
There are absolutely
involved
other,
with that as well.
There are totally other ethical issues, and I think. But then colonization. I mean,
that was too far.
No. But that's a good point. You know, are we living there? Are we going to just have sort of a base camp there for us to study, and then we leave in sort of an Antarctica sort of way, where we're not really setting up a city, or are we setting up a city?
And what changes will we make to the environment when we have
that,
to meet our own survival needs?
Exactly.
And
exactly.
Not interfering with that. Sorry.
De toute manière, il faudrait aussi organiser à ce moment-là la vie sur place. C'est-à-dire que s'il y a des humains là, il va falloir assurer aussi leur subsistance, etc. Ça sera déjà peut-être un peu moins évident qu'une mission robotisée. Gilles.
Alors oui, justement, il y a plusieurs étapes chronologiques dans l'histoire. Avant de débarquer sur une planète quelle qu'elle soit, on peut tout à fait l'explorer sans envoyer qui que ce soit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, Rosetta et Philae qui ont exploré une comète et on a eu à peu près toutes les informations qu'on voulait. L'exploration martienne qui a toujours lieu aujourd'hui, elle continue. Je veux dire, le robot continue de fonctionner. On continue à avoir toutes les informations que les techniques et que les outils qu'on a envoyés sur place nous permettent d'avoir. Ce n'est donc qu'après qu'on peut se poser la question de l'intérêt ou pas d'y aller. Après, si on décide d'y aller, la première difficulté, c'est que c'est loin. Et sur Mars, par exemple, le trajet aller, c'est à peu près 9 mois. Le trajet retour, c'est donc aussi à peu près 9 mois. 2 fois 9, 18, ça fait un an et demi de voyage. Il va donc falloir faire vivre quelques personnes, pas beaucoup, je sais pas, 3, 4, 5, pendant un an et demi en vase clos. Puis ensuite, ils vont faire ce qu'ils ont à faire sur la planète, toujours en vase clos. Donc la première difficulté, c'est celle-là. C'est sociologiquement parlant d'arriver à trouver des personnes compatibles qui vont arriver à vivre, on met dans le mot vivre ce qu'on veut, mais à vivre, à travailler, à se côtoyer pendant 2-3 ans sans aucun contact avec qui que ce soit d'autre. Et ce n'est qu'après, une fois que ces gens-là auront déblayé le terrain, si j'ose dire, qu'une colonisation est possible avec des espaces qui vont aller en s'agrandissant. Mais il y a un côté extrêmement humain dans l'histoire, dans la première étape de la colonisation. C'est compliqué.
Oui, surtout que depuis quelques années, enfin, ça a même commencé dès les années 70, puisqu'on a analysé le sol de la Lune déjà sur place sans emporter des cailloux. On sait envoyer des sondes qui vont faire des analyses chimiques ou de structures ou de matériaux et qui vont renvoyer les données sur Terre de façon à être analysées et donner beaucoup déjà d'informations. Donc cette possibilité de recueillir beaucoup d'informations sans avoir envoyé des personnes sur place est déjà complètement faisable actuellement. Donc on peut imaginer dans le futur des appareils de plus en plus sophistiqués avec des autonomies d'énergie, capables de sonder les pierres, le sol et détecter de la vie humaine à distance, comme ça se fait déjà pour Mars. Mais voilà, on peut, je pense que franchement, dans quelques dizaines d'années, on sera capable de vraiment de développer, vu l'accélération qui existe sur ces appareils dits portables ou voyageables, je ne sais pas comment on les appelle ceux qui vont sur Mars, mais on le voit, c'est vraiment, ça devient de la technologie accessible. Donc j'imagine que dans le futur, ou dans un roman, ou dans la science-fiction, on peut imaginer tout à fait des appareils qui vont vraiment être très performants pour la détection de civilisations lointaines et à longue distance.
Drones.
Je ne sais pas justement ce que les auteurs pensent, peuvent aider en imaginant.
Eh bien.
Well, the third novel in the Planetfall universe is set on Mars, and I had quite a lot of fun thinking about these things. Now, I'm not a futurologist, and that's something that I always have to forgive myself for at the beginning of writing a science fiction novel, that I'm not trying to predict the exact way that it will be done. It's an my imagination. But one of the things that I've thought a great deal about was colonization of Mars, and how I've decided to send an AI first with the first payload that arrives. And set everything up so that methane can be created and with really basic chemical processes, but that there's an AI there that's been there for 20 years gathering data and setting up the rudimentary colony before the human beings even get there, to increase the chances of survival, and so that you have an intelligent system that has effectively lived in that place and has seen lots of things and processed lots and lots and lots of data before very squishy, easy to kill people go there. And I would like to think that we could do the same with this archaeological site, that you could have, if I was going to play with this, I'd want a really, really cool spaceship with an awesome AI that could be your base of operations, and that you could send things down to the planet. You wouldn't have to leave anything there, that you wouldn't even have to touch the surface, as you say. You could send down drones, you could do everything that you possibly could without touching anything, and just having that remote AI managing it all and processing all of the data. I want to write this now.
But this is quite the same thing. This is quite the same thing that we do up to date on Mars, for example.
Mm.
The rover, le robot qui a été envoyé avait la possibilité de faire un certain nombre de prélèvements. Une dizaine de prélèvements. C'est pas beaucoup sur toute la vie d'un robot. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsqu'on fait le prélèvement, on le met dans une chambre de mesure, et puis on fait la mesure. Et puis, comme il n'y a pas de service après-vente sur la planète, la chambre de mesure, elle est polluée. Donc lorsqu'on veut faire une deuxième mesure, on est obligé d'avoir une deuxième chambre à côté, parce que la première, elle est polluée. Donc le fait de faire des prélèvements, ça atteint rapidement ses limites. Donc l'autre possibilité, c'est de faire un certain nombre de mesures qui donnent des résultats identiques à ceux qui sont faits par des prélèvements, mais par des méthodes qui, justement, ne nécessitent pas des prélèvements, comme par exemple l'utilisation de la lumière, donc l'infrarouge, l'ultraviolet, les lidars, la LIPS, etc., etc. Et donc ça, ce sont des choses qui existent.
There was an article that I saw in my hotel room this evening about a new space that's been discovered inside the Great Pyramid. Did you see this? With a measurement, I had like 2 minutes to go "oh" before I had to come over, but it was a technique, something to do with measuring, I can't even remember what it was, but when I was reading about it, I thought, this sounds like science fiction, and this is happening now, which is really, really cool. Did you see the article about this?
Where was it?
There's been a new space. So you know where you have the great chamber inside the main pyramid. There's a big space above the great chamber, which is a similar dimensions that they, it was reporting, has just been discovered, that everyone's very excited about.
Okay.
Alors, on vient de parler de vie organisée sur une autre planète. Imaginons qu'elle soit un petit peu plus organisée, que cela puisse donc ressembler à une civilisation. On a bien vu à un moment les canaux de Mars, on s'est trompé là-dessus. Donc là, je suppose peut-être, c'est Patrice qui va peut-être nous répondre, qu'une mission robotisée ne suffirait pas parce que je ne pense pas que l'on enverrait vraiment des robots pour explorer des vestiges qui pourraient être des artefacts.
Ça, tout dépendra du degré d'intelligence artificielle du robot, ceci dit. Hein. On s'approche à de choses quand même assez complexes. Ceci dit,
Et de l'outil,
bien sûr. Mais après ça, si on commence à avoir la certitude qu'on est face à une civilisation, donc disparue, puisqu'on fait de l'archéologie, là, on se retrouve face à un obstacle philosophique d'abord. Soit on pense que un même milieu produit de mêmes êtres, et dans ce cas-là, on peut espérer comprendre les vestiges que l'on va trouver. Soit au contraire, on pense que on va avoir affaire à quelque chose de profondément différent, et là, on a peu d'espoir. Personnellement, moi, je me mettrais dans la deuxième catégorie, parce que, pour vous donner un exemple, et cette fois-ci un exemple concret, il y a eu tout récemment en France, ces dernières années, une exposition d'archéologie, mais qui utilisait des objets de notre quotidien à nous, vus par des archéologues du futur. C'était très drôle. Il y avait un nain de jardin qui était une statue de culte, une statue de divinité, un arrosoir qui, lui, se transformait en vase votif. Tout ça parce que les archéologues et le commissaire de l'exposition qui s'était lancé là-dedans essayaient de se mettre dans la tête d'un archéologue du futur qui aurait à interpréter des artefacts pour lesquels on n'a plus toutes les données. L'idée, c'était qu'il y avait eu une catastrophe et donc on a perdu toutes les archives et on n'a que les objets. Ben, imaginez déjà donc cette difficulté pour des archéologues actuels face à des civilisations pour lesquelles on n'a pas d'écrit. Alors, qu'est-ce que ça donne pour des archéologues sur une autre planète face à une civilisation où là, évidemment, on n'a rien. On se retrouverait face à des objets qui pourraient parfois avoir des formes qui nous seraient familières, mais pour lesquelles, du coup, on pourrait faire de profonds contresens, des interprétations totalement fausses, parce qu'on n'est pas dans la tête des personnes qui les ont fabriquées. Je pense que là, on touchera à la limite de l'étude. On pourra toujours trouver des structures, trouver peut-être des villes, pourquoi pas, trouver des objets, en déterminer la forme, en déterminer l'âge, la composition, peut-être les moyens de fabrication. Par contre, l'usage et le sens, je crois qu'il y a peu d'espoir qu'on trouve quelque chose.
Quelqu'un veut réagir ?
There's been a few things where people have found Victorian objects and asked modern day people what they think they were, and invariably they get it wrong, and that's even with the same cultural context. So is there any hope whatsoever? Would we be able to extrapolate any kind of information? I'm thinking no, because we are limited so much by our own experience and our own context. Do you think there would be any way, if there was a picture perhaps, or some kind of representation, do you think that we would be able to deduce the use of these objects?
Non, enfin, déjà même pour nos civilisations anciennes, il y a des interprétations du 19e siècle sur des temples qui sont revus au 20e et qui seront peut-être revus dans 100 ans.
Yes.
Puisque, encore une fois, on se base par rapport à un référentiel, effectivement. Et ce référentiel dépend de notre propre civilisation. Donc c'est quelque chose qui sera sûrement très difficile. On pourra s'approcher. Je pense qu'il ne faut pas trop être gourmand dans l'interprétation. Il faut laisser des hypothèses, il faut employer le conditionnel et il faut amasser le plus de données possibles et de preuves. Mais l'affirmation péremptoire, en vrai scientifique, pas en science-fiction, est toujours difficile.
C'est vrai que le rassemblement des données ne permet pas forcément de faire le lien entre les choses. Et je pense, par exemple, grande question sur l'origine de l'homme. On retrouve des squelettes de ci et de là, et tous les 10-15 ans, il y a une nouvelle théorie qui ressort sur l'ordre chronologique d'apparition de telle ou de telle famille. Mais en fait, le simple fait d'avoir les données et d'en avoir un certain nombre ne permet pas forcément, d'une part, de les relier chronologiquement et de conceptualiser quelque chose qui est en dehors de notre concept, de nos propres concepts. Et ça devient compliqué. On ne peut que émettre des hypothèses.
Un exemple, enfin, c'est plutôt toi qui pourras en parler, mais un exemple flagrant en archéologie, ce sont les mégalithes, justement, Stonehenge et toutes les pierres, les dolmens qu'on retrouve partout en Europe. Il y a eu tout un tas d'interprétations rigoureuses ou moins rigoureuses, et ça changera encore en fur et à mesure.
Oui, il y a une sorte de besoin de croire à quelque chose. Alors la question pourrait être, par rapport à la recherche d'une vie extraterrestre sur notre planète, quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes du scientifique et quelles sont les attentes de l'individu en tant qu'être humain? Qu'est-ce qu'il y a comme attente derrière cette quête?
Well, I think what the other panelists have said about it being difficult to the point of near impossibility of us ever fully understanding what we found is true. However, I think just finding it satisfies my expectations. Just knowing that there is life out there, knowing that there is a city out there, would be enough. And yes, I would want to study it, and I would want to learn about it, even though I know I'd probably fail. Because to me, that answers the biggest question. And that is the question that all astronomy, all space exploration is based around, is are we alone? And I think anything you learn beyond the are we alone, yes, no, we are not alone, anything you learn beyond that is just, it's a bonus, it's icing, you know, it's you've already answered the thing, so anything beyond that is just fun, honestly.
I would be very excited to find another place and another culture, presumably that again is an assumption, but that there has been another species that has felt the need to change the environment in which they live, that they have created something, and whether that creative drive is because of the survival need or a need for artistic expression. It's the fact that something has been made within that environment that we see so much within human society, that there is that commonality between us would really excite me and make me feel happy about our place in the universe. Not that we're, you know, not that we're alone, brilliant, but also that we both have the desire to create and to shape and change the environment.
It's the difference between simply existing in the environment and reflecting on the environment. Mm. If you find art, that's how we interpret the universe, right? Because there are species here on Earth that do alter their environments, you know, beavers, termites, anything that builds a den or a nest is altering its environment. But what we haven't yet found here on Earth are other species that do what we do, that decorate, you know, Well, but see, that's the thing. We don't know what's decoration and what's practical. But I agree with you that finding art would be just or something, you know, if you find writing or something that is clearly done for, as you said, purposes beyond survival, something that suggests reflection, I think would be the best thing you could find.
Ceci dit, il y a une autre interrogation. Au départ, nous avons dit que vous trouvez les vestiges d'une vie organisée. Donc, au moment où la mission d'exploration parvient sur la planète, il n'y en a plus de vie actuelle. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une question, et comment vous vous y prendriez pour savoir ce qui s'est passé? Pourquoi cette vie n'est plus qu'à l'état de vestiges ou de fossiles et n'existe plus? Comment vous feriez?
Alors, justement, philosophiquement, je pense que c'est peut-être un élément important de comprendre la raison de la disparition de cette civilisation. pour nous enseigner à nous-mêmes qui arrivons et qui l'explorons, et d'éviter de reproduire les mêmes causes produisant les mêmes effets, de reproduire les mêmes choses et de redisparaître aussi. Et alors je ne sais pas si les outils, les méthodologies d'analyse peuvent aller aussi loin que ça, sauf sur des choses extrêmement précises, extrêmement concrètes, qui peuvent être, par exemple, le fait d'avoir épuisé tel ou tel type de minerai ou tel type d'environnement, qui fait que la vie, à ce moment-là, n'est plus possible. Si la raison était autre, je ne sais pas.
And also, how would you interpret the lack of that mineral? Would you say, oh, well, there may have been a survival need in that species. Maybe they needed to ingest a particular kind. I mean, this is total, you know, science fiction. But did they need to ingest it to survive? And that over mining it meant that it was no longer a sustainable civilization, or was it an economic problem? There are so many different ways to interpret one thing missing. It's exactly the same problem that we have.
Oui. Yeah. Mais là, ça demande des années de travail, l'interprétation.
Et l'un peut être la cause ou la conséquence de l'autre. C'est compliqué.
Yeah, correlation does not mean causation.
Moi, je serais vraiment très curieuse de fouiller et de voir ce qui s'est passé. Mais voilà, ce n'est pas pour autant qu'on aura la solution. D'autant plus, encore une fois, on sera dans des référentiels complètement différents. Mais à votre question de savoir ce qu'on aimerait bien faire, moi, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, ça, c'est sûr.
Il peut y avoir une frustration intense aussi, c'est de ne pas arriver à comprendre. On pourrait prendre l'exemple de Solaris de Stanislas Lem, où cet océan, à la surface de la planète, on ne l'a jamais compris. Après des décennies d'études, personne n'a jamais réussi à comprendre ce que c'était. Donc, c'est aussi une autre question, un autre vertige métaphysique peut-être, que de dire qu'on n'arrive pas à comprendre.
Mais ça arrive fréquemment de ne pas comprendre, ça arrive même plus souvent que le contraire dans le domaine de la recherche.
J'ai l'impression que pour Planète Folle, par exemple, nous avons quand même un artefact avec une société humaine qui s'installe à côté, qui n'a pas pris peut-être tellement de précautions en s'installant et en venant voir, mais enfin bon, il y a d'autres raisons un petit peu métaphysiques, pour lesquelles on ne sait pas grand-chose.
No, and one of the things that I explore in Planetfall is the influence of religion on the way that they interact with the structure, because they've been led to that planet by somebody who has said, this is where we will find God. And there is so much weight behind that pure reason to go there that in some ways they approach it like scientists, and in lots of ways they really don't. And it is frustrating. I think that that's one of the things that we would have to also consider. Is there an element of, well, I suppose it comes back, sorry, I'm thinking about three different things at once. I think when we're looking at this civilization, whether we will never be able to understand the cultural reference of whether there's any kind of religious aspect there or worship there. I'm thinking about so many of the ancient civilizations that we have investigated on Earth, and that so much of the narrative around them is about worship, and worship of the sun, and worship of different deities, and all this kind of thing, whether we would ever be able to determine that function in this theoretical find that we're discussing now, I don't know.
That's assuming that they have the need to create religion and to worship, which may, I mean, it's hard, we don't know, you know, that could just be a human instinct. And so it would be really, it'd be very difficult, it'd almost be like studying animals in a way. I don't mean that to belittle our aliens here, but in that way that you don't want to anthropomorphize. You know, to you it may look like worship, to them it may be completely devoid of deity, but they're still celebrating the sun, you know, and it might, to them it might mean something different. So, I mean, this is, as we've said, it's... Without an interpreter there, it'd be very difficult.
They may believe it's a functional thing, that they They really do believe that what they are doing, that we would interpret as religion, really does make the planet work. Or, yeah. So, mm.
Patrice.
Oui, comme on disait tout à l'heure, déjà trouver, c'est pas mal. Comprendre, ce serait mieux, mais en même temps, quand on est chercheur, comprendre, bah, c'est quand même mieux quand c'est un peu plus difficile. Comme le disait mon directeur de thèse, Claude Sterks, il avait une formule assez rigolote. Qu'est-ce que ça doit être ennuyant d'être Dieu, tout savoir. Quelque part, bon, finalement, quand on travaille dans ces domaines-là, c'est peut-être pas plus mal quand il reste pas mal de mystères.
Oui. C'est chercher à comprendre qui.
Voilà. Peu importe le but, le chemin, c'est peut-être plus intéressant.
Oui. Voilà. Ça pourrait presque faire une belle conclusion. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Je rappelle quand même, pour rester dans le thème, que tout à l'heure, à 20h15, il y aura un film avec L'homme venu d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, avec David Bowie, bien sûr. Et que Becky Chambers et Emma Newman sont aussi toutes les deux lauréates du prix Julia Verlanger, qui sera remis demain. Vous êtes toutes les deux en concurrence. Voilà, merci. Et tout de suite, masterclass. Avec Laurent Durieux, l'auteur de l'affiche du festival. On en apprend toujours beaucoup sur la manière de réaliser une affiche. Merci. Merci.